VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bienvenue à l'édition du 21 avril 2015, à la une ce soir.
République démocratique du Congo, après 2 ans d'interruption, le procès Chebeya a repris à la haute cour militaire, à la prison centrale de Makala.
Au moins 7 morts à Mogadiscio dans un attentat près du palais présidentiel. Al-Shabaab a revendiqué l'attaque.
Dans le nord du Mali, la ville de Gao paralysée par une grève des chauffeurs.
En Guinée, le bras de fer continue entre l'opposition et le pouvoir sur fond de manifestations et de répression.
Égypte, procès de Mohamed Morsi, l'ancien président islamiste, échappe à la peine de mort.
Et au programme également la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal.
En Guinée, pouvoir et opposition ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'ouverture du dialogue devant aboutir à un consensus pour l'organisation des futures élections. Depuis une semaine, les opposants au président Alpha Condé organisent une série de manifestations dans la capitale Conakry. Les violences enregistrées ont fait des morts et plusieurs blessés, nous dit Zakaria Camara.
Trêve à Conakry pour permettre aux Guinéens de la capitale de souffler, de s'approvisionner, dit l'opposition, alors que le gouvernement continue d'appeler au dialogue. Un dialogue que refusent les responsables des partis politiques de l'opposition. Nous retournerons à la table de discussion à la seule condition que le chronogramme des élections publié par la Commission électorale nationale indépendante soit annulé, a déclaré hier le chef de file de l'opposition guinéenne, quelques heures après le début d'une marche interdite par le gouverneur de Conakry. Hier, et comme lors des précédentes manifestations, les forces de l'ordre et jeunes manifestants ont échangé projectiles contre gaz lacrymogène dans les quartiers favorables à l'opposition guinéenne. Pour le moment, la CENI maintient l'organisation de la présidentielle avant les locales et l'opposition d'appeler à une nouvelle marche jeudi prochain pour Addis Ludalen Diallo demander la démission du président Alpha Condé. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Dans le nord du Mali, le syndicat des chauffeurs de Gao décrète un arrêt de travail pour 72 heures. Cette grève qui a commencé ce matin concerne le transport routier, le transport fluvial et même les véhicules privés ne sont pas autorisés à rouler dans la ville, nous dit notre correspondant Boubacar Touré.
Les attaques multipliées sur les routes et les assassinats sauvages ont amené le syndicat des chauffeurs de la région à décréter une cessation de travail pour 3 jours. Aliou Sagayar Dikaï, secrétaire général du syndicat des chauffeurs.
Ils ont tué un chauffeur de l'UDCICR sur sa direction. Même pas une semaine après, on a fait descendre 2 jeunes chauffeurs de 25 à 18 ans et présentement l'un d'eux a sa femme même en état de grossesse presque à terme. Sauvagement abattu parce qu'on les a fait coucher et mitrier. Hier encore, ils ont abattu un autre. Donc on a jugé nécessaire que ça ne peut pas continuer trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête, on descende des directions. Déjà, nous sommes des cadavres parce qu'un chauffeur sur la direction, c'est déjà un mort. Donc, il ne faut pas nous tuer avant que le jour n'arrive. Les 72 heures, on va les faire.
La centrale, la syndicale des travailleurs du Mali, UNTM, section de Gao, soutient cette grève des chauffeurs de la région. Muslim Mega, secrétaire général adjoint de l'UNTM, section de Gao.
Nous les soutenons pour l'arrêt des véhicules. Le marché doit continuer, les gens doivent à leurs affaires, les écoles continuent, pas de casse, pas d'agression physique, pas d'agression verbale.
Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Un tribunal égyptien a condamné ce mardi l'ancien président Mohamed Morsi à 20 ans de prison en relation avec le meurtre de manifestants en 2012. Morsi et 12 autres fidèles, plutôt frères musulmans, échappent à la peine de mort car ils ont été reconnus coupables d'intimidation et de violence, mais pas d'assassinat. Les accusations sont liées à des affrontements devant le palais présidentiel lorsque des partisans islamistes de M. Morsi avaient attaqué des manifestants qui dénonçaient un décret déclarant que ces décisions ne pouvaient pas être contestée par les tribunaux.
En Afrique du Sud, l'armée va être déployée dans le township d'Alexandra à Johannesburg pour aider dans la lutte contre les violences xénophobes qui ont fait au moins 7 morts. Sur place, le témoignage d'un habitant, Armand Bokoko.
Oui, l'armée a été déployée. Enfin, le ministre de la police a essayé de donner un peu d'informations. Bon, le temps utilisé montre comme si la police est limitée. Mais c'est comme s'il déclarait l'état de siège. Ce n'est pas officiellement dit que c'est l'état de siège. Comme la police a vu que beaucoup de zones dans les bidonvilles, pas seulement à Jobou, à Durban. Cette situation peut se déclencher dans toute l'Afrique du Sud. Alors, ils ont demandé de l'aide parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour contenir cela. Ça fait une semaine que la police a lancé la requête pour que l'armée puisse assister. Il y a deux voies. L'armée assiste la police dans le sens que la police puisse continuer à faire le travail. Deuxième cas, c'est que l'armée va essayer de voir dans quelle mesure, en collaboration avec la police, contenir les zones. C'est-à-dire qu'ils mettent seulement leur présence pour étouffer ceux qui ont des intentions criminelles.
Au moins 7 personnes ont été tuées dans la capitale somalienne, Mogadiscio, par l'explosion d'une voiture piégée ce mardi devant un restaurant populaire à l'heure du déjeuner. Reuters cite un porte-parole d'Al-Shabaab déclarant que le groupe est derrière l'attaque. Au moins 8 autres personnes ont été blessées dans l'explosion qui a visé le restaurant Banoda, un endroit fréquenté par des fonctionnaires et des employés du palais présidentiel. Et les États-Unis ont mis 2 chefs d'Al-Shabaab sur leur liste noire. Le numéro 1 du groupe extrémiste Ahmed Diri et son chef du renseignement Maat Karate ont été désignés comme terroristes par le département d'État.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Italie, suite de l'enquête après le naufrage dans la nuit de samedi à dimanche d'un bateau transportant des centaines de migrants, la plupart sont morts en mer Méditerranée. Nicolas Pino, l'étau se resserre sur le commandant du bateau.
La détention de Mohamed Ali Malek doit être confirmée ce mardi par le parquet de Catane en Sicile. La justice italienne considère ce Tunisien âgé de 27 ans comme l'unique responsable de ce drame. Pour les procureurs en charge de l'enquête, l'homme a provoqué le naufrage en surchargeant son navire et en se montrant incapable de le manœuvrer à l'approche d'un cargo portugais venu le secourir. Le bilan officiel du naufrage est de 24 morts, 28 survivants, mais selon les organisations humanitaires internationales, le nombre de personnes disparues est estimé à environ 800, dont des femmes et des enfants. Depuis le début de l'année, quelques 1750 migrants, hommes, femmes et enfants, ont péri en mer, dont 450 la semaine dernière. C'est 30 fois plus que durant la même période l'année dernière, selon l'Office des migrations internationales.
Les États-Unis ont rapproché leur porte-avions Roosevelt des côtes du Yémen et surveillent un convoi de navires iraniens qui pourrait se diriger vers le pays. Washington tient toutefois à souligner que ce déploiement maritime ne signifie pas nécessairement une intervention américaine directe. Des explications avec Salwa Jafari.
Au large des côtes yéménites, les aéronefs font leurs allers-retours sur les porte-avions. Des vols d'exercice. Les États-Unis insistent, leur pays n'est pas en guerre au Yémen. Pourtant, Washington vient de rapprocher son porte-avions Roosevelt du pays et surveille de près un convoi de navires iraniens. Le bras de fer entre Washington et Téhéran est à peine voilé. L'Iran soutient les rebelles, les États-Unis se tiennent à la disposition de Riyad et de ses alliés. Le président iranien demande un cessez-le-feu pour donner le temps aux Yéménites de former un nouveau gouvernement représentant toutes les tribus et toutes les factions. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite poursuit ses raids aériens contre les rebelles chiites. À Sanaa notamment, où des explosions déclenchées hier par des raids contre une cible militaire rebelle ont fait 38 morts parmi les civils. Sur la totalité du territoire, on parle d'un bilan de 700 morts et de 3000 blessés. Des milliers de personnes ont été jetées sur le chemin de l'exil depuis le début des raids.
Toujours dans l'actualité internationale, le Pentagone ne pense pas que le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, ait été blessé dans une frappe aérienne de la coalition, comme l'affirment certains médias. Rapporte l'AFP citant un porte-parole du Pentagone. Cette information avait déjà émergé à la mi-mars et le Pentagone avait alors estimé qu'il n'y avait rien pour indiquer que al-Baghdadi avait été blessé ou tué, a déclaré le colonel Stephen Warren. Le quotidien britannique The Guardian a indiqué ce mardi que al-Baghdadi avait été sérieusement blessé le 18 mars dans l'ouest de l'Irak dans une frappe de la coalition aérienne contre l'organisation État islamique, frappe menée par les États-Unis.
Et la seconde phase du procès de l'auteur des attentats du marathon de Boston, Johar Tsarnaev, s'est ouverte aujourd'hui avec la requête de la peine de mort par le procureur. Le 8 avril dernier, un jury de 12 membres avait trouvé le jeune Américain d'origine tchétchène coupable de 30 chefs d'accusation, dont 17 prévoient la peine capitale. Ces mêmes jurés doivent maintenant choisir entre la mort ou la prison à vie pour Tsarnaev. Cette partie du procès devrait durer plusieurs semaines. Les attentats du 15 avril 2013 avaient fait 3 morts et plus de 260 blessés.
Et c'est la fête à Londres. La reine Elisabeth II célèbre ses 89 ans d'existence. Et la famille royale attend l'arrivée du deuxième bébé du prince William et de son épouse Catherine. Elisabeth II règne depuis plus de 63 ans. Elle battra le 9 septembre le record de longévité de la monarchie britannique. Record détenu par la reine Victoria qui régna pendant 63 ans et 7 mois.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco, présentée ce soir par Félix Yepassi Zembrou.
La Zambie a annoncé lundi avoir réduit de plus de la moitié des redevances controversées sur l'exploitation minière après que des investisseurs eurent menacé de se retirer de ses mines de cuivre. Le géant minier canadien Barrick Gold avait menacé de suspendre ses activités et de licencier des travailleurs dans sa mine de cuivre de Lumwana en raison de la redevance. La Zambie est le 8e producteur mondial de cuivre. Une vaste opération visant la décongestion du port autonome de Douala a été lancée lundi. L'opération, conjointement pilotée par la Direction générale des douanes et la Douala International Terminal, va consister à vendre aux enchères des marchandises conteneurisées en long séjour sur le terminal. Le port autonome de Douala prévoit la vente aux enchères de 1000 conteneurs séjournant au terminal depuis plus de 90 jours. Et le Qatar a remis à flot un projet visant à héberger 12 000 fans de foot sur des bateaux de croisière lors de la Coupe du Monde en 2022. Cette idée d'hôtel flottant avait été initialement évoquée il y a 2 ans avant de prendre l'eau. Mais le Qatar, qui vise désormais à renforcer sa présence dans le secteur des croisières de loisirs, a relancé le projet de loger dans des bateaux des spectateurs du Mondial. L'Office du tourisme a fait cette annonce lors d'une conférence professionnelle aux États-Unis pendant le week-end. La FIFA stipule que le pays hôte devra fournir d'ici 2022 au moins 60 000 chambres pour les spectateurs de la Coupe du Monde. Et le Qatar s'est même engagé à mettre 100 000 chambres à leur disposition.
Merci Félix pour la Minute Éco.
Et l'on enchaîne tout de suite avec la page sport présentée par Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Mauvaise nouvelle pour le foot africain, John Moshu n'est plus.
Oui, l'ex-milieu de terrain international sud-africain John Chuzo Moshu, champion d'Afrique 96, est décédé aujourd'hui d'un cancer à l'âge de 49 ans. Le décès a été annoncé par son agent, cité par l'agence Sport 24. Moshu comptait 73 sélections dans l'équipe nationale des Bafana Bafana. À l'étranger, il avait joué en Turquie, à Fenerbahçe notamment, puis à Bursaspor de 1997 à 2003. Mais ce qu'on retient de l'homme, surtout de ce joueur, c'est son rôle dans la victoire des Bafana Bafana en Cannes 96 à Johannesburg, un succès historique 2 ans après la fin du régime d'apartheid et l'élection de Nelson Mandela à la présidence. Il avait marqué 4 buts durant ce tournoi.
Et si l'on parlait du retour de Steven Keshi à la tête des Super Eagles du Nigeria.
Voilà, l'homme qui n'est jamais vraiment parti. Hein. Steven Keshi a signé mardi un nouveau contrat de 2 ans, mettant fin aux spéculations sur son avenir à la tête des Super Eagles, absent de la CAN 2015. Le contrat initial de 3 ans de Keshi, qui avait conduit le Nigeria à la victoire finale à la Coupe d'Afrique des Nations 2013, avait pris fin après le Mondial 2014, qui était en quelque sorte un fiasco, hein, puisqu'il n'avait pas pu franchir l'étape du premier tour. Le Nigeria avait été éliminé en 8e de finale par la France, plutôt.
Match retour de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, ce soir, mission compliquée pour le Paris Saint-Germain face à Barcelone. À l'aller, Paris avait été battu à domicile, 3-1. Le Bayern, qui avait lui aussi subi cette défaite de 3-1 à l'aller, reçoit le Porto.
Basket nord-américain, les playoffs continuent, Bagassi.
Oui, et hier soir, les Bucks de Milwaukee ont encore perdu face à Chicago, 82-91. Chicago qui totalise désormais 2-0. 2-0 également pour les Golden State Warriors après leur victoire hier, 97-87 contre le New Orleans.
Washington joue
Washington,
ce soir.
Washington joue ce soir
deuxième contre Toronto Raptors. Voilà.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Samedi prochain, les Togolais vont voter. Le choix du futur président se fera sur la base de son programme de société et les 5 candidats en disposent. Pour expliquer les grands axes de ces programmes à la population, la société civile togolaise a organisé des débats publics télévisés avec les candidats ou leurs représentants. Après le passage de ces derniers, la société civile, à son tour, donne son appréciation. Reportage de Kailoson à Lomé.
Depuis une dizaine de jours, les potentiels futurs présidents du Togo expliquent leur programme de société aux électeurs afin de solliciter leur voix. Pour Cyril Comelin, membre de la plateforme citoyenne, les candidats n'ont pas fait ressortir dans les projets de société leur vision pour le Togo. Il est classe hors sujet.
La plupart des candidats n'ont pas compris le sens d'un projet de société. Il ne s'agit pas de dire que dans tel secteur nous allons régler tel problème, dans tel secteur nous allons régler tel problème, non. Je crois que l'exercice est plus élaboré, plus fin que cela. Il s'agit de dire, dans 20, dans 30 ans, notre parti veut construire tel type de Togo. Et ce mandat va nous aider à continuer ou à entamer un processus de développement réel. Si on commence à dire on va juste travailler dans les différents secteurs, on aura raté le coche parce qu'au final, on ne trouvera en réalité aucun résultat concret. Puisqu'on ne vise rien en soi, on ne veut que régler des problèmes. Ça, c'est juste la gestion des affaires courantes. Et c'est en deçà de mes attentes.
Dans les projets de société, les candidats proposent de lutter contre le chômage en ayant recours aux investisseurs étrangers. Pour le syndicaliste Ayao Gbandou, la solution ne réside pas forcément dans ces investissements étrangers.
Dans le cas où on vous dit on va faire venir des investisseurs, on sous-tend souvent des moyens de corruption et non-respect d'un certain nombre de taux. Or, on a la possibilité de créer des emplois ici. Et il y a des emplois qui existent. On devait les renforcer. Et malheureusement, pour tous les candidats, on entend toujours nous allons faire venir des investisseurs pour résoudre le problème de l'emploi.
Le groupe de réflexion et d'action femmes, droits et développement s'est intéressé à la place réservée à la gente féminine dans ces programmes de société. Mika Fui-Akwe, chargée de programme au GF2D.
Les candidats nous ont quand même assuré qu'ils prenaient en compte d'une manière ou d'une autre la question de la femme. Et ce que nous pourrons dire, c'est que des stratégies concrètes ne sont pas visibles. Et nous, ce que nous voudrions, c'est justement qu'on puisse prendre en compte le genre, prendre en compte les besoins spécifiques des femmes dans toutes les décisions, toutes les politiques qui doivent être prises par le nouveau gouvernement qui sera mis en place à l'issue de cette élection.
La campagne électorale s'achève le jeudi 23 avril, mais déjà ce mercredi, les forces armées votent par anticipation. Kailoson, Lomé, VOA Afrique.
République démocratique du Congo. Après 2 ans d'interruption, le procès Tshebeya a repris ce 21 avril à la haute cour militaire, à la prison centrale de Makala. Le fondateur de la Voix des Sans-Voix, Floribert Tshebeya, a été assassiné près de Kinshasa le 2 juin 2010. La veille, il s'était rendu à l'inspection générale de la police avec son chauffeur, Fidel Bazana, pour y rencontrer le chef de la police, John Numbi.
En 2011, le numéro 2 de la police, Daniel Mokala, et d'autres policiers ont été condamnés à des peines maximales, dont la peine de mort. Un des co-accusés, l'ex-major Paul Moulambwe, aurait mis en cause le général Numbi. Des proches de Tshebeya ont déposé devant la Cour suprême une requête de prise à partie contre l'auditeur général des forces armées, le général Pondé, qui avait rejeté leur plainte contre Numbi. Nathalie Barge a joint Olivier Kongwa, chargé d'assistance judiciaire à la Voix des Sans-Voix, qui était à l'audience ce matin.
La présence de ce a été beaucoup plus consacrée aux prisonniers fugitifs. Parce que pour le ministère public et les avocats de l'État de défense, ils ont voulu qu'on puisse suivre les poursuites ça veut dire que les prévenus qui sont présents à la barre puissent être jugés indistinctement avec ceux-là qui sont en fuite, pour lesquels les avocats des parties civiles ont sollicité les défauts à comparaître. Tous les prévenus qui sont présents ici à Kinshasa étaient prévenus, parmi lesquels Daniel Moussa Moukali et quatre de ses co-détenus. Ceux-là qui sont en fuite, ils sont en fuite depuis l'assassinat, ils sont toujours en fuite. À part Paul Milambe, on a retrouvé au Sénégal pour le moment. Nous avons tout demandé la comparution de l'inspecteur général Djolumbi. Avec sa comparution, c'est sûr que le tribunal sera éclairé et la vérité sur la mort, l'assassinat de Frédéric Chebert et Cyril Bazana va sortir. C'est ça le credo de la BCV. Ça veut dire la comparution de John Numbi, les agents qu'on prévenu.
Vous basez vos informations sur un des co-accusés. Comment pouvez-vous assurer que ce qu'il dit est exact?
C'est pourquoi nous, nos avocats, nous, de la partie civile, on a demandé à ce qu'on puisse mettre en place une commission rogatoire, que la haute cour militaire puisse mettre en place une commission rogatoire qui doit se déplacer pour aller jusqu'au Sénégal afin d'entendre ce procès verbal de M. Paul Milambe.
Est-ce que John Numbi a déjà dit s'il avait ou non rencontré Floribert Chebeya la veille de son assassinat?
Pas le jour de la mort. Il se connaissait physiquement comme ça, depuis de longues dates. Tant que John Numbi ne sera pas arrêté et amené au procès pour qu'il puisse comparaître comme prévenu. On attend rien de ce procès. Ce sera comme le premier degré de supplément. Ce sont les autres personnes qui vont payer à la place des deux commanditaires de l'assassinat de Frédéric Chebeya.
Et le mystère fidèle Bazana, il n'a toujours pas été retrouvé. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus?
Oui, c'est pourquoi même les avocats de la partie civile, en rapport avec l'information sur la découverte de ces charniers dans la commune de Maloukou, ont demandé à ce que le procureur puisse aussi voir s'il y a moyen d'identifier son corps. On a même demandé qu'on puisse même prendre l'ADN d'un de ses enfants qui serait en Europe, amener ça ici et voir peut-être avec les dépouilles mortelles qui ont été enterrées en masse, s'il y a moyen de voir si on peut retrouver son corps. Parce qu'il est établi maintenant que non, à travers même la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de charniers, il y a beaucoup de charniers qui sont disséminés. Et comme l'avait reconnu tout Moujambou, qui en Sénégal, qui avait dit que non, le corps de Fidèle Bazana aurait été enterré dans un ferme là de John Numbi qui se trouve dans la périphérie de la ville de Kinshasa.
C'était Olivier Kongwa de La Voix des Sans-Voix, joint à Kinshasa.
Cette semaine, Washington Forum vous emmène en Afrique du Sud. Depuis plus de deux semaines, le pays connaît un nouvel épisode de violence xénophobe. Comment expliquer ce sentiment de haine envers les immigrés? Pourquoi le gouvernement sud-africain a-t-il du mal à contenir la situation? Nous aborderons aussi un autre volet de la thématique de l'immigration. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière maritime qui laisse l'Europe perplexe. Que faut-il faire pour y remédier? Qu'est-ce qui pousse ces malheureux exilés entre les mains de véritables mafias sans scrupules? Retrouvez-moi, Salwa Jafari, pour un nouveau Washington Forum, ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel.
Les survivants du naufrage en Méditerranée ce week-end sont arrivés tôt ce matin en Sicile, en même temps que les deux passeurs responsables du drame, aussitôt arrêtés. Selon l'OIM, depuis le début de l'année, plus de 1700 migrants, hommes, femmes et enfants, ont péri en mer, dont 450 la semaine dernière. Lionel Gaïma.
L'Union européenne a décidé de tenir jeudi un sommet extraordinaire pour répondre en urgence à ces drames en Méditerranée. Elle a d'ores et déjà adopté lundi un plan d'action en 10 points qui prévoit notamment le doublement des moyens pour la mission de surveillance maritime Triton. Celle-ci pourra patrouiller dans une zone plus large et devra participer au secours. Certains néanmoins doutent de l'efficacité à long terme de ces mesures, pourtant ardemment réclamées par les organisations humanitaires. Ce n'est pas avec 10 bateaux de plus ou de moins que le problème sera réglé, avait jugé dès dimanche le chef du gouvernement italien Matteo Renzi, soulignant que le naufrage du chalutier avait eu lieu alors que les secours étaient déjà présents sur les lieux. Le problème n'est pas celui du contrôle des mers, mais bien la mise hors d'état de nuire des passeurs, ces nouveaux esclavagistes, a-t-il souligné. Et ses procureurs ont annoncé l'arrestation de 2 d'entre eux, le magistrat Rocco Liquori. Nous avons exécuté 2 mandats d'arrêt contre des trafiquants présumés. Nous parlons du capitaine du bateau qui a fait naufrage et d'un membre d'équipage. Nous les avons inculpés pour immigration illégale et pour homicide. C'est dans ce cadre que lundi, le chef du gouvernement italien proposait des interventions ciblées à l'encontre de ceux qui organisent ces voyages de la mort. Une idée reprise le même jour à Luxembourg par les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, mais qui doit vaincre encore les réticences de certains pays, notamment la Grande-Bretagne, rapporte l'AFP. L'Union européenne a été accusée de n'avoir pas mis au point une réponse adéquate à la crise et fait l'objet de critiques croissantes. L'année dernière, elle a en effet annulé un programme de recherche et de sauvetage en Méditerranée qui, craignaient certains, pourrait encourager davantage des migrants d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et d'ailleurs à courir des risques en entreprenant cette odyssée périlleuse vers l'Europe. Il s'agit maintenant de savoir ce que décidera le sommet de jeudi, vu que cette politique n'a pas endigué la vague ni la répétition des tragédies en Méditerranée.
Le Monde aujourd'hui, VO Afrique. À Brazzaville, le journaliste et éditeur de l'organe privé et indépendant Voix du Peuple, Guimilex Mbonzi, a demandé le report de sa comparution prévue aujourd'hui devant le Conseil supérieur de la liberté de communication en rapport avec la publication de deux articles controversés. De passage ici à Washington, le journaliste Eli Smith a eu des entretiens hier au département d'État concernant la situation de la presse au Congo-Brazzaville. Ce confrère camerounais a été expulsé l'année dernière par les autorités congolaises pour avoir exigé toute la lumière sur la de son domicile en septembre 2014 par les individus armés qui ont violé sa jeune sœur. Timothée Donangmaï s'est entretenu avec Eli Smith.
Ce qui m'a étonné est que les braqueurs n'avaient pas peur. Il y avait un parmi eux qui était toujours en train de téléphoner. Et le lendemain, quand il y a eu un entretien à la presse, j'ai dit « Je voudrais qu'on fasse une enquête pour savoir qui ces braqueurs étaient avec au téléphone. »
Alors, des suspects ont été arrêtés dans cette affaire?
Oui, les suspects ont été arrêtés, mais c'est la deuxième vague. On m'a d'abord montré un groupe de suspects que le général Ndengue, qui est le chef de la police congolaise, a voulu que j'accepte. Il a même poussé le bouton plus loin en disant que c'est le pasteur Toumi qui a envoyé les gens pour m'attaquer. Moi, j'ai dit, mais écoute, moi, je n'ai rien contre le pasteur Toumi. Et les gens que vous me présentez là, je ne les connais pas. Ils sont encore très jeunes. Ce ne sont pas les gens matures. Voilà pourquoi je crois lundi après, il est venu avec 5 personnes qui m'a présenté. Parmi eux, il y avait 3 qui ont participé chez moi que j'ai pu identifier. C'est quand même grave qu'on vous apporte les gens et quand vous mettez la pression, on vous sort les vraies personnes. C'est comme s'ils connaissaient là où ils étaient gardés. Je n'ai jamais vu un braquage où on te braque en téléphonant et qu'ils ne veulent pas que je demande les commanditaires.
Quel est l'état de la liberté de la presse aujourd'hui au Congo-Brazzaville?
C'est calamiteux. Il n'y a plus de liberté de presse au Congo-Brazzaville. Le seul journal qui tenait encore la route, je pense que ses jours sont comptés, c'est le journal La Voix du Peuple. Et le seul journaliste qui le tenait, il s'appelle Monsieur Guimilex Mbonzi. Je pense que soit on va lui suspendre, soit on va lui mettre en prison, et soit son journal serait encore suspendu.
Qu'est-ce qu'on vous a dit au niveau du département d'État concernant cette situation?
Le département d'État est préoccupé. Ils sont en train de voir comment faire pour aider la presse congolaise et aussi mettre la pression sur le gouvernement congolais pour qu'il puisse permettre aux journalistes de s'exprimer. Je crois qu'au département de temps, on pense aussi que, comme les élections arrivent, vous savez qu'au Congo, bientôt quoi, en 2016, il y aura les élections présidentielles et qu'officiellement, le président Denis Sassou Nguesso ne doit plus se représenter. Est-ce que cette attaque contre la presse est parce qu'il y a une certaine presse qui veut qu'on puisse respecter la constitution au Congo? Donc, le département d'État veut aider les journalistes congolais tout en mettant une pression sur les autorités congolaises à respecter la liberté de presse.
C'était le journaliste camerounais Eli Smith.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Nathalie Barge, seulement un maximum de 65 degrés Fahrenheit ici à Washington. C'est le printemps, on ne peut pas se plaindre.
On ne se plaint pas après cet hiver rude que nous avons eu, n'est-ce pas Gabi?
Cette édition touche à sa fin. Nous avions Georges Léonard Sagnot à la mise en onde. Et ce soir, il était assisté de notre bon ami Misha Dubinsky. Dobry den. Présentation, Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Et sachez qu'on est ensemble 24 heures sur 24, bien sûr, sur Facebook et voaafrique.com. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.